VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakis à la présentation de cette édition du vendredi 6 janvier 2023. Voici d'abord le sommaire. Au Tchad, le gouvernement affirme avoir déjoué une tentative de déstabilisation par des officiers visant à porter atteinte aux institutions du pays. Les Béninois élisent dimanche leurs députés lors d'un scrutin marqué par le retour de l'opposition après 4 ans d'absence. En Ukraine, poursuite des hostilités malgré le cessez-le-feu annoncé par Moscou pour la Noël orthodoxe, Kiev exige un retrait total des forces russes des territoires occupés. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants s'enfonce dans le chaos. Elle tente encore ce vendredi, pour la 4e journée consécutive, d'élire son nouveau président. Au Togo, le salaire minimum passe de 35 000 francs CFA à 52 500 francs CFA par mois. C'est à suivre dans notre actualité économique et dans les sports. Yacouba Ouedraogo nous parle du nouveau règlement de la FIFA concernant les agents de joueurs qui entre en vigueur lundi. Mais d'abord, le journal. Le gouvernement tchadien a affirmé hier, jeudi, dans un communiqué, avoir déjoué une tentative de déstabilisation visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République. Le point avec Rosine Monetzer.
Ce plan a été élaboré par un groupe restreint de conspirateurs composé de 11 officiers de l'armée, avec à sa tête le nommé Baradine Berdei Targio, président de l'Organisation tchadienne des droits humains, a assuré le gouvernement, précisant que les services de sécurité avaient procédé à leur interpellation à partir du 8 décembre 2022. Selon Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, une information judiciaire a été ouverte contre ces personnes pour atteinte à l'ordre constitutionnel, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et complicité. En février 2021, Baradine Berdei Targio, militant connu des droits de l'homme au Tchad, avait été condamné à 3 ans de prison pour atteinte à l'ordre constitutionnel. Depuis son indépendance de la France en 1960, l'histoire du Tchad est pavée de coups d'État et d'offensives rebelles.
Les autorités sénégalaises ont interdit une manifestation prévue ce vendredi à Dakar par l'opposition pour dénoncer des irrégularités dans la gestion d'un fonds anti-Covid relevé dans un rapport de la Cour des comptes. La Cour a pointé des manquements, des surfacturations, des absences de justificatifs des dépenses dont certaines ne sont pas liées au Covid. Le gouvernement s'est défendu en soulignant que les manquements relevés portent sur au moins 1% du montant total du fonds, mais a promis de suivre les recommandations de la Cour qui a demandé l'ouverture d'informations judiciaires contre des responsables dans des ministères. Les Béninois élisent dimanche leurs députés lors d'un scrutin marqué par le retour de l'opposition qui avait été interdite de participer aux législatives de 2019. Cette partie, dont 3 se réclamant de l'opposition, vont y participer. Plusieurs opposants sont en exil ou emprisonnés. Nathalie Barge.
2 des principaux adversaires du président Patrice Talon, le constitutionnaliste Joël Aïvo et l'ancienne garde des Sceaux, Riki Amadougou, sont toujours emprisonnés et condamnés à de lourdes peines. Exilés aux États-Unis, Komi Koutché, ancien ministre des Finances, condamné par contumace à 20 ans de prison pour détournement, s'est dit confiant pour les démocrates qu'il soutient. Le parti a déclaré qu'en cas de victoire, les opposants emprisonnés seraient libérés grâce à une loi d'amnistie et ceux en exil pourraient rentrer au pays. La force Coris pour le Bénin émergent, autre formation de l'opposition, tentera aussi d'obtenir certains sièges parmi les 109 disponibles au Parlement. D'autres figures de l'opposition en exil ne participeront pas à ces législatives, comme Sébastien Adjavon, arrivé 3e à la présidence de 2016 et condamné par contumace à 25 ans de prison. En 2019, seules les 2 formations politiques acquises au président Patrice Talon, l'Union progressiste et le Bloc républicain, avaient été autorisées à participer aux législatives. Le nouveau code électoral impose qu'il y ait une femme élue par circonscription, soit au moins 24 députés.
Le franco-rwandais Claude Muhayimana, condamné fin 2021 à Paris à 14 ans de réclusion pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité lors des massacres des Tutsis en 1994, est sorti de prison le 21 décembre dans l'attente de son procès en appel. Il a été placé sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Dans un rapport publié ce vendredi, l'OIT passe en revue les effets du temps de travail sur le rendement des entreprises et l'équilibre, et sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le rapport examine les mesures de réponse à la crise prises par les gouvernements et les entreprises pendant la pandémie de Covid-19 afin de contribuer à la poursuite du fonctionnement des différentes entités et à la sauvegarde des emplois et estime que l'augmentation du nombre de travailleurs effectuant des heures réduites a contribué à empêcher les pertes d'emplois. Inversement, indique l'OIT dans un communiqué, le fait de restreindre la flexibilité entraîne des coûts importants, notamment un roulement accru du personnel.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chambre américaine des représentants tente ce vendredi pour la quatrième journée consécutive d'élire son nouveau président et de sortir de la paralysie causée par des dissensions dans les rangs républicains. Le 12e vote vient de prendre fin, mais c'est toujours le statu quo. Il y a moins de dissensions que les trois jours précédents. Le point avec Mamadou Ouf.
Les débats ont repris ce vendredi. Hier, après 11 tours de vote, le républicain Kevin McCarthy n'est pas parvenu à accéder au perchoir après 3 jours de tractation. L'élu de Californie a pourtant tendu la main à une vingtaine d'ultra-conservateurs devenus les troubles faits en leur offrant des concessions de taille lors de négociations en coulisses. Le groupe dit n'avoir aucune confiance en lui et refuse toujours de rentrer dans le rang, laissant la Chambre des représentants sans président et sans speaker au perchoir. Les élus ne peuvent pas prêter serment ni voter de projet de loi. Pour être élu, le speaker a besoin d'une majorité de 218 voix et la Chambre va continuer à voter jusqu'à ce qu'un président soit élu. Ce qui était souvent une affaire de quelques heures s'est étendu sur plusieurs jours. Le scénario est inédit, mais en 1856, les élus du Congrès ne s'étaient accordés qu'au bout de 133 tours de vote après 2 mois.
Le 13e vote va avoir lieu dans quelques instants après, à l'issue du 12e vote. Il y a 7 républicains qui ne veulent pas voter pour le leader républicain. En Ukraine, duels d'artillerie et bombardements se poursuivent ce vendredi à Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est, malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu unilatéral décrété par la Russie à l'occasion de la Noël orthodoxe. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Des journalistes de l'AFP disent avoir entendu des tirs côté ukrainien comme côté russe après le début du cessez-le-feu à Bakhmout. Pavlo Diachenko, un policier de cette ville, soutient que la trêve est une provocation russe. Moscou assure respecter sa trêve, mais accuse les troupes ukrainiennes de continuer à bombarder les villes et les positions russes. Kiev parle de 2 frappes russes sur Kramatorsk, dans l'Est, ayant touché un immeuble résidentiel sans faire de victimes. Pour leur part, les autorités séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine font état de plusieurs bombardements ukrainiens sur leur bastion de Donetsk avant et après l'entrée en vigueur théorique du cessez-le-feu. Suivant un appel du patriarche orthodoxe russe Kirill et une proposition du président turc Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine a demandé à son armée d'observer un cessez-le-feu sur toute la ligne de contact entre les parties à partir de ce vendredi jusqu'à demain samedi. L'Ukraine met en doute la sincérité de l'initiative russe, la balayant comme un acte de propagande.
Le président français Emmanuel Macron présente ses vœux aux soignants ce vendredi dans un hôpital de région parisienne, une première depuis son élection en 2017, avec des annonces très concrètes et très attendues qui devront être à la hauteur de la refondation promise d'un système de santé à bout de souffle. M. Macron veut leur permettre de retrouver du sens dans leur métier et faciliter l'accès aux soins des Français, selon l'Élysée. Il va dévoiler des mesures très concrètes avec des clauses de revoyure précises et rapprochées pour s'assurer de leur exécution, a ajouté la présidence, sans en détailler la teneur. La violente arrestation hier jeudi à Culquiam, dans le nord-ouest du Mexique, d'un des fils du célèbre narcotrafiquant Joaquim El Chapo, a fait 29 morts lors d'échanges de tirs nourris dans plusieurs points de la ville, jusqu'à l'aéroport où trois avions ont été touchés, provoquant des scènes de panique. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce soir par Nathalie Barge.
Au Togo, le salaire minimum est passé de 35 000 francs CFA à 52 500 francs CFA par mois, soit 302,89 francs CFA de l'heure depuis le 1er janvier. L'annonce a été faite dans un arrêté par le ministre de la Fonction publique et du Travail, Gilbert Bawara. L'accord de revalorisation du SMIG est le résultat de longues négociations entre les organisations patronales et sept centrales syndicales. L'exportation de grumes est interdite en République du Congo depuis le 1er janvier, conformément aux dispositions de la loi du 8 juillet 2022 sur le code forestier. L'objectif est d'améliorer la chaîne des valeurs, notamment en développant l'industrie de la transformation du bois, ce qui devrait générer plus de ressources dans les caisses de l'État et créer de nombreux emplois au niveau local. Au Cameroun, selon l'Agence de régulation des télécommunications, les opérateurs de téléphonie mobile exerçant dans le pays, notamment les filiales des groupes sud-africains MTN et français Orange, se sont engagés à investir 156 milliards de francs CFA en 2023. L'objectif est l'extension de la couverture du réseau et l'amélioration de la qualité de services de communication.
Et en transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec nous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Eh bien, le nouveau règlement de la FIFA concernant les agents de joueurs entre en vigueur lundi.
Oui, désormais l'exercice de la fonction d'agent de joueur sera soumis à la création d'un système d'émission de licence obligatoire, l'interdiction de la pluri-représentation afin d'éviter les conflits d'intérêts ou encore le plafonnement des commissions des agents. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la FIFA. Cette nouvelle réglementation a été adoptée en décembre à Doha par le Conseil de la FIFA qui y voit une étape décisive dans la mise en place d'un système de transfert plus juste et transparent dans le football. Elle est censée pallier le défaut de régulation encadrant la profession d'agent depuis la suppression des licences par la FIFA en 2015. Sur la fenêtre estivale 2022, entre le 1er juillet et le 1er septembre, le montant dépensé en transferts internationaux chez les hommes s'est établi à 5 milliards de dollars selon la FIFA.
Et Ronaldo va purger dans le championnat saoudien ses deux matchs de suspension infligés en Angleterre, n'est-ce pas Yacouba?
La star portugaise s'est vue infliger fin novembre cette sanction par les instances anglaises pour avoir arraché son téléphone portable à un jeune fan d'Everton lors d'un match de Premier League joué la saison dernière. La Fédération anglaise de football avait alors précisé que cette sanction s'appliquerait quelle que soit la destination de Cristiano Ronaldo, qui a rompu son contrat avec Manchester United. Son nouveau club saoudien, Al Sadd, a confirmé que cette suspension sera applicable une fois qu'il aura été officiellement enregistré. Ronaldo s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club saoudien pour des émoluments estimés à 200 millions d'euros sur la durée de son contrat.
Et ici aux États-Unis, Damar Hamlin va mieux.
Le joueur des Buffalo Bills a fait montre d'une amélioration remarquable de son état de santé après son arrêt cardiaque dû à un choc subi lundi pendant un match du championnat américain de football. Selon les médecins qui s'occupent de Damar Hamlin au centre médical de l'Université de Cincinnati, bien qu'il soit toujours dans un état critique, il a démontré qu'il semble être intact sur le plan neurologique. Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants, a déclaré l'équipe CIS dans l'état de New York lundi. Hamlin a été victime d'un arrêt cardiaque après avoir subi un terrible choc à la poitrine en plaquant un adversaire lors du match de saison régulière contre les Bengals à Cincinnati. Le président Joe Biden dit s'être longuement entretenu avec son père et sa mère.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Mandela-Kidza avec vous. Place au dossier du jour. Le gouvernement américain réitère son appel au Rwanda pour qu'il cesse tout soutien aux rebelles du M23 en RDC, tout en demandant à Kinshasa de mettre fin à toute collaboration avec les groupes armés hostiles au gouvernement du Rwanda tels que les FDLR. Koi Gwahinga s'est entretenu avec Yohan Shimonsis, porte-parole du département d'État américain basé à Johannesburg.
Il y a des preuves claires du soutien rwandais au M23 et il y a des rapports crédibles, par exemple, de graves violations des droits humains par le M23. Nous réitérons notre appel au Rwanda pour qu'il cesse son soutien au M23 et retire ses soldats de l'est de la RDC. De même, nous dénonçons la collaboration entre des éléments des forces armées congolaises et des groupes armés dans les FDLR, comme le souligne le rapport que je viens de mentionner.
Concrètement, comment comptez-vous vérifier que vos appels sont pris en compte sur le terrain?
Il y a plusieurs façons. Bien sûr, notre diplomatie est toujours engagée dans la région avec les gouvernements concernés, les pays voisins, avec le gouvernement à Kinshasa et à Kigali aussi. Les États-Unis ont des équipes dans chaque capitale qui sont chargées de surveiller la situation. Il y a aussi l'ONU, bien sûr, qui vient de publier ce rapport. Il y a des casques bleus, il y a des ONG, et nous recevons, par exemple, des rapports de chaque côté, des rapports parfois concernant de violations de droits humains, par exemple. Mais c'est par plusieurs façons, plusieurs voies, on cherche à surveiller la situation. On reste concerné par la situation, mais le rapport qui vient d'être publié, c'est un bon début.
Yohan Shimonsis, porte-parole du département d'État américain basé à Johannesburg. Toujours en RDC, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé le 24 décembre l'opération d'identification des électeurs en vue des élections à la fin de l'année. Cette opération concerne d'abord 10 des 26 provinces du pays, mais connaît plusieurs difficultés. Les requérants se plaignent de la lenteur dans l'opération et même de la qualité des photos sur les nouvelles cartes. La CENI se veut rassurante et promet de régler ces différents problèmes le plus vite possible. Le point avec Alex Katikatai, notre correspondant à Kinshasa.
Blanchard vient d'obtenir sa carte d'électeur dans le centre d'enrôlement de Lemba, dans le centre-est de Kinshasa. C'était après un parcours de combattant. Il lui a fallu plus de 2 heures d'attente et environ 1 heure pour sa prise de photo.
La grosse difficulté, c'est au niveau de la capture de la photo. J'ai pris au moins 55 minutes devant la machine. Il fallait changer de position, il fallait me lever, il fallait secouer la machine, il fallait appeler les ancêtres au village et puis c'est compliqué. Nous avons pris beaucoup de temps. Je m'imagine la suite parce que là, il n'y a pas engouement. Et demain, quand il y aura engouement, je me demande que ça va donner.
Un peu plus loin, vers l'ouest de la ville, à la Cité Verte, c'est le même constat. Les requérants se plaignent du temps qu'ils mettent avant d'être reçus. Certains passent la journée sans être servis. C'est le cas de Nadège. Bien qu'ayant le jeton d'accès, elle ne pourra pas être enrôlée aujourd'hui.
On arrive le matin, mais le bureau est ouvert à 12h. On a les jetons en main, mais à 16h déjà, ils ferment. Donc on ne sait pas. C'est nous qui sommes en retard ou c'est eux qui sont en retard? Parce que nous, on arrive avant. C'est vrai qu'il y avait le culte, mais ce n'est pas une raison parce que je pense que l'église et l'école l'école, c'est séparé, c'est pas le même endroit. Donc si nous on se sacrifie pour venir et que eux ils viennent en retard, vraiment ça nous pénalise.
La nouvelle société civile du Congo, qui a déployé plusieurs observateurs, déplore la mauvaise gestion des flux des requérants. Jonas Tchombela dénonce même le racket de certains requérants par les agents de l'ordre.
La gestion des requérants pose des soucis énormes au niveau des forces de l'ordre qui sont affectées dans tous ces centres d'inscription, avec des inquiétudes sur les pratiques de corruption pour avoir le jeton. Voilà, autant d'éléments qui ne sont pas éléments qui assainissent l'environnement d'organisation de l'inscription.
Cependant, tout n'est pas négatif. Dans plusieurs bureaux du centre-ville, les opérations se passent sans inquiétude. Les requérants sont satisfaits de la qualité du travail.
Aussitôt arrivé, comme l'ancienne carte de lecteur était propre, on a regardé dans les systèmes et après le remplissage de la fiche, on a trouvé que toutes les données sont dans les systèmes. C'est très rapide.
La procédure est, en tout cas, est facile. Hein. Comme j'avais déjà fait les pré-enregistrements, ça a facilité à l'OPES d'enregistrer les données.
Une autre critique à l'endroit de la CENI est la qualité de la nouvelle carte d'électeur dont la photo est en noir et blanc. Sur les réseaux sociaux, cette nouvelle carte a fait les buzz avec des commentaires allant dans tous les sens. Mais à la CENI, on s'est vu rassurant. Denis Kadima, président de la CENI, explique le choix du noir et blanc.
Concernant la carte d'électeur actuelle, elle est imprimée au moyen d'une imprimante thermique. C'est pour ça qu'elle est en noir et blanc. Et l'avantage avec cette impression par voie thermique, c'est que on n'a pas besoin de cartouches, on n'a pas besoin de différents types de couleurs. Et ça, ça permet de réduire le coût dans un contexte où nous sommes pour la mutualisation et nous allons laisser l'impression de la carte d'identité se faire en couleur par le NIP.
Pour cette première ère opérationnelle qui compte 10 provinces de l'ouest du pays, la CENI a donné un mois aux citoyens en âge de voter pour se faire enrôler. Un délai jugé trop court par certains. D'autres dans l'opposition ont carrément décidé de boycotter cette opération. C'est le cas du Front commun pour le Congo, la plateforme de Joseph Kabila, qui continue de réclamer une nouvelle CENI. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Dans le souci de faciliter la collecte des ordures ménagères, une start-up burkinabé a développé un appareil appelé Ecolo. Le dispositif et sa plateforme de gestion ont été présentés au Salon de la technologie CES qui se tient à Las Vegas. Cette technologie écologique et accessible aux ménages les plus modestes pourrait être une solution dans la lutte contre l'insalubrité dans les villes. Le reportage de Thierry Kaoré.
Ecolo est un dispositif qui permet d'optimiser la collecte d'ordures à travers un système d'alerte. La collecte est déclenchée par l'appareil associé à la poubelle lorsqu'elle est remplie. Faisal Yannick Kongo est le fondateur et PDG de Unipay SAS.
Ce qu'il permet de faire, c'est de détecter le taux de remplissage d'une poubelle. Dans quel but ? Le premier, c'est d'éviter les débordements de poubelles. Donc, on sait que quand on a la poubelle qui déborde, ça sort un peu du but de la poubelle, c'est qu'on a encore la rue tout autour qui devient sale, sale d'ordures, d'odeurs et d'animaux qui viennent consommer ça, notamment les rats et autres. Donc c'est un énorme problème, pas seulement pour l'Afrique. C'est pour ça que nous sommes à CIS aujourd'hui, parce que c'est aussi un problème pour les grandes villes. Aux États-Unis, dans les grandes villes, on a ce problème de débordement de poubelles.
Le débordement des poubelles dans les grandes villes est un véritable problème car la plupart des collectes se font périodiquement à travers un calendrier. Ecolo offre un service de ramassage à la demande à travers sa plateforme car les clients peuvent déclencher une collecte au besoin, un avantage pour les ménages à faible revenu selon son fondateur Faisal Yannick Kongo.
Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas assez de moyens pour souscrire à un paiement mensuel de collecte d'ordures. Donc, puisqu'à travers cet appareil, nous sommes capables de savoir quand la poubelle est pleine, nous pouvons offrir un paiement à la collecte. Donc, c'est-à-dire une formule où, si on dit que la collecte coûte 500 francs CFA, par exemple, bah, la famille peut dire, nous, on peut se permettre que 1500, donc on va s'assurer que la poubelle, en fait, soit pleine 3 fois par mois.
L'entreprise Unipay SAS, qui a conçu le dispositif, est l'unique start-up africaine qui participe au CES à Las Vegas. Une fierté pour son promoteur, Faisal Yannick Kongo, qui a déjà noué des partenariats.
Nous sommes vraiment en train de montrer la première participation du Burkina Faso à cet événement. Ecolo a vraiment tapé dans l'œil sur la base de ces deux éléments principaux. Et là, sur notre stand aujourd'hui, nous montrons les déploiements actuels que nous avons de Ecolo au Burkina Faso, un déploiement à Paris, et aussi des discussions pour l'Espagne. J'ai eu un industriel qui est passé tout à l'heure, qui nous montrait un bon potentiel pour les États-Unis aussi.
Conçu au Burkina Faso en partenariat avec une entreprise américaine et chinoise, le dispositif permet également de localiser et surveiller les poubelles de sa plateforme en temps réel. Son coût actuel est estimé à $99, mais les promoteurs travaillent pour une production en masse afin de ramener son prix à seulement $20.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé qu'il va se rendre à la frontière entre le Texas et le Mexique avant le sommet qui se tiendra la semaine prochaine avec les dirigeants du Mexique et du Canada. Cette initiative met l'accent sur l'immigration, une question intérieure sensible. Depuis Washington, Anita Powell examine les sujets qui vont être abordés lors du sommet de deux jours à Mexico. Récit Yacouba Ouedraogo.
Les trois dirigeants ont beaucoup de terrain à couvrir lorsqu'ils se rencontrent. Ensemble, ils supervisent plus d'un demi-milliard de personnes et près de 20 millions de kilomètres carrés. Mais alors que les chefs d'État se préparent à ce sommet la semaine prochaine, dans la capitale mexicaine, le flux incessant de migrants à travers la frontière sud va être au centre de l'attention. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a recensé près de 2,4 millions de passages à la frontière sud au cours de l'année 2022. La plupart des traversées concernent des ressortissants mexicains, mais aussi des migrants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela. Le président Biden a annoncé de nouvelles restrictions en matière d'immigration. Il a déclaré qu'il se rendrait à la frontière américano-mexicaine, comme le réclament depuis longtemps ses opposants.
La semaine prochaine, je vais me rendre au Mexique où je vais rencontrer le président Andrés Manuel López Obrador. Nous avons un vaste programme qui aborde la crise climatique, le développement économique et d'autres questions. Mais une partie importante de ce programme est le renforcement de la frontière entre nos deux nations. Et je me rendrai moi-même à la frontière ce dimanche à El Paso, au Texas, pour évaluer les opérations d'application de la loi sur les frontières, rencontrer les responsables locaux, les dirigeants communautaires et les gens à la frontière.
Certains analystes estiment que l'accent mis sur la frontière détourne l'attention d'autres questions entre les trois pays qui entretiennent d'importants liens commerciaux, culturels et environnementaux. Eric Farnsworth dirige le bureau de Washington du Conseil des Amériques et de la Société des Amériques. Il s'est entretenu avec la VOA sur Zoom.
Ce qui devrait se passer et ce qui peut se passer sont probablement deux choses distinctes. Je pense que les trois dirigeants vont regarder ce sommet à travers une lentille domestique et essayer de progresser sur les questions qui les affectent au niveau national. Aux États-Unis, il s'agit clairement de la migration.
D'après les analystes, cette situation peut aussi profiter au Mexique en détournant l'attention de ses problèmes de sécurité, du trafic de drogue, du recul de la démocratie et d'un conflit majeur avec les États-Unis sur la politique énergétique. Mariana Campero anime le podcast Mexico Mares au Centre d'études stratégiques et internationales. Elle s'est entretenue avec la VOA via Zoom.
The fact that migration has such a political impact.
Le président López Obrador utilise le fait que la migration a un tel impact politique dans l'électorat des États-Unis comme un moyen de forcer l'administration Biden à fermer les yeux sur beaucoup de ses autres abus.
Farnsworth exhorte les dirigeants à regarder au-delà de l'Amérique du Nord.
Si la réunion dégénère en une discussion sur les différends commerciaux et la politique frontalière, je veux dire, ce sont des questions importantes. Ne vous méprenez pas. Mais cela signifie que la vision d'une Amérique du Nord plus unifiée et plus compétitive sera une fois de plus mise de côté. Et je pense que c'est une véritable perte pour les citoyens d'Amérique du Nord.
Selon la Maison-Blanche, de nombreux sujets vont être abordés au cours de ce sommet de deux jours. Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison-Blanche.
Les défis climatiques et environnementaux sont accroître la compétitivité de l'Amérique du Nord, protéger la santé et la sécurité de nos citoyens, répondre conjointement à la migration irrégulière dans la région et faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion.
Alors que le président Biden se rend à la frontière sud avant d'aller à Mexico, tous les regards sont tournés vers ces nombreux migrants massés à la frontière avec l'espoir d'entrer aux États-Unis et le désespoir de rester.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Bureau Afrique. Un grand merci à Georges Eleanor Sagno pour la mise en onde et l'équipe de rédaction au micro, Eric Manilakis. Ici dans le monde aujourd'hui.